Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h03 sur RMC, la deuxième heure de Roten sans flamme. Et comme tous les vendredis, quelle deuxième heure, le Multiplex Ligue 1. On lance cette 21e journée de championnat de Ligue 1, déjà 21e journée. Et il n'en reste plus beaucoup, hein. Il en reste 13, le chiffre d'Olympique de Marseille. Ah, c'est peut-être un signe pour leur match dimanche soir. En tout cas, on est avec Benoît Boutron, on est avec Manu Petit, avec Younes Belhanda. On a passé une excellente première heure. On remercie encore Guillaume O'Haraud d'être venu nous livrer ses impressions sur ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Il a brillé sur des classicos, donc on le remercie. Vous pouvez écouter l'émission aussi en podcast, la première heure, et même toute l'émission, et vous abonner à la chaîne Roten sans flamme. Exactement. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais là, on va accueillir les cadors.
À 19h45, juste après justement toutes les infos sur cette journée de Ligue 1, vous aurez le quiz.
La petite fessée du week-end.
Eh oui, tous contre Roten. Le cadeau, c'est une carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett. Pour vous inscrire, 32-16, touche 4 au quiz par SMS au 7-32-16. Et donc la semaine prochaine, cette grande opération dans Roten sans flamme, avis de recherche. Eh oui, on vous demande, c'est un appel au témoignage. Si vous avez croisé les membres de la Dream Team de Roten sans flamme dans votre vie, ils ont marqué votre vie, vous avez marqué la leur. Venez nous le dire au 32-16 sur le numéro WhatsApp d'RMC, le 06 12 424 424. Il y a beaucoup de témoignages accumulés pour Jérôme, pour Manu, pour Christophe Dugarry, pour Jean-Michel Larquet. Certains membres de la Dream Team sont fébriles, arrête pas de me demander, mais qui vient pour moi, qui vient pour moi, on ne dira rien. La surprise sera totale jusqu'à leur jour de passage.
Ouais, Manu, il a voulu,
Manu, tu sauras
il
pas.
A voulu gratter. Qui, hey, qui vient, voilà. Tu vas avoir des surprises.
On te dira qui n'a pas voulu venir.
Il y en a une.
Non, la liste est longue, non?
Manu, il y en a une. Tu ne seras pas déçu, tu vas même être content. Ouais. Et l'autre, je ne sais pas. Ils ont pris le risque, moi je ne pense pas.
Après, c'est aussi une occasion de renouer des liens qui sont parfois rompus.
Ouais, non, mais celui-là, non, mais on va pas plus en dire. Allez, vas-y,
vous jouez votre truc. Vas-y, pour me faire saliver.
On verra.
Saliver, mais c'est la vérité.
On verra, écoute.
Moi, je pense que tu seras pas forcément
Jérôme,
content.
Mais pour Jérôme, on a retrouvé un ancien sélectionneur qu'on a contacté.
Ah, bah, de toute façon, j'en ai eu trois, donc c'est simple.
On verra. Écoutez,
il y en a qu'un qui me.
Comment t'as fait avoir trois sélectionneurs pour une sélection, toi?
C'est un panneau, oh. Mais c'est une légende de l'équipe de France, oh.
Tu vas me respecter. Déjà, j'en ai eu plus qu'une. Et
t'es bien chambré, Jérôme. Accepte le chambrage. T'es bien chambré, accepte le chambrage.
Exactement.
Bien joué, Manu.
Younes, il a raison. Il a raison, j'ai pas marqué équipe de France comme lui et comme la famille 98. Mais j'ai joué avec tous ses potes.
Bah oui.
Tu sais, c'est une grande famille 98.
Bah ah, pourquoi tu t'envoies un Scud à France 98? Ah
non, mais non, j'ai joué.
C'est moi qui t'envoie une vanne et en fait, t'attaques.
Mais non, mais j'ai joué avec tous. Et en plus de ça, j'ai eu trois grands sélectionneurs.
Trois grands.
Dans mes petites sélections.
Tu peux les citer?
Il rigole lui-même.
Allez, parce que l'un d'entre eux sera peut-être avec
Roger Le Maire.
Ah, Roger.
Et qui d'autre?
Jacques Santini.
For sure, it's Roger.
Et le grand Raymond Domenech.
Ah ouais, bon, on espère que l'un d'entre eux sera
avec c'est Raymond Domenech, à mon avis.
Allez, alors là, concentrons-nous. S'ils me font ça, ça va être un mauvais moment.
Concentrons-nous sur l'émission du jour et lançons donc la 21e journée de Ligue 1. Ouais,
alors, si vous faites ça, là, mon Dieu.
RMC, Roten sans flamme.
Magnifique! Steph Mandanda n'a rien pu faire face à ce geste de génie et le doublé aujourd'hui pour Younes Belhanda.
Petit et but!
Et troisième but!
Et but! Emmanuel Petit! Là, je crois que c'est Rapado! Ah oui!
Calou le centre, Roten! Et le troisième!
C'est celui-là le plus beau des trois!
Magnifique dans l'instant! Et dans l'instant de Jérôme Roten!
Pour un mec comme le mien, il faut se lever, tôt. Ouais.
Allez voir, hein. Younes, le bio vélodrome, c'est quelque chose.
Ouais, mais la reprise de volée, là, que vous venez d'entendre de 30 mètres. Je peux te dire.
On va mettre les trois buts sur les réseaux, vous voterez.
Ah, bah, mais de 30 mètres, là, je vais te dire que toute la tribune Auteuil, ils s'en souviennent.
Moi, ils ont déjà voté, moi, ça fait longtemps.
Ah, bah, voilà.
J'ai pris le trophée.
Bah, tu m'étonnes. 21e journée de Ligue 1. On va lancer avec nos correspondants. Maxime Tilliette sur la Côte d'Azur. Salut, Max.
Salut, les amis. Bonsoir à tous.
Salut, Max.
Jean Baumel dans le Nord. Salut, Djibo.
Salut, Benoît. Salut, Jérôme, Manu et Younes.
Et Xavier Grimaud à Rennes. Salut, Xavier.
Salut, messieurs.
Ça bouge.
Et voilà. On est ravis de vous accueillir tous les trois. Oui. Certains ont plus d'actu que d'autres, quoique il y a de l'actu un peu partout dans vos clubs, hein, parce qu'on parlera tout à l'heure de l'OGC Nice. Est-ce que Claude Puel, c'est déjà une réussite à Nice? On parlera de Lille. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter réussite. Pour le LOSC?
Mais parce que ça se tend en championnat.
Et c'est pour ça qu'on fait le débat. Mais si tu le veux bien,
ils ont battu une Ligue 2 à la maison.
On fera le débat pour ça. Démarrons à Rennes, mon cher Xavier. Demain à 17h, c'est Lens-Rennes, le leader contre le 6e. Tout va bien à Lens, qui est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France et qui est 2e de Ligue 1. Ça va beaucoup moins bien à Rennes, qui reste sur 3 défaites avec 9 buts encaissés et aucun de marqué. Ça devait être un match particulier pour Brice Samba, ancien Lensois aujourd'hui au Stade Rennais. Eh ben, il regardera ce match à la télé ou en tribune, Brice Samba, demain.
Oui, parce que Brice Samba n'est pas dans le groupe, ne sera pas dans le groupe qui sera annoncé. Alors, il l'annonce le jour du match, les Rennais, mais Brice Samba n'a pas pris l'avion avec le Stade Rennais tout à l'heure pour la mise au vert après le dernier entraînement cet après-midi. Voilà, c'est une information qu'on est en mesure de confirmer. Et c'est un choix qui est pas anodin, évidemment, parce qu'on parle de Brice Samba, on parle du gardien qui a 100% de titularisation en Ligue 1 cette saison. On parle forcément d'un cadre. Et puis, on sait qu'après la défaite à Marseille en Coupe de France, il y avait eu quelques frictions, notamment après le deuxième but marseillais, hein, sur une relance manquée de Samba. Abibay s'en était pris à lui, ça a continué un peu dans le vestiaire. Bon, comme ça arrive souvent, on sait que Brice Samba a un fort caractère et c'est l'un des rares joueurs qui pouvait y aller un peu frontalement avec Abibay. Sauf qu'Abibay, c'est là que c'est étonnant, Jérôme et messieurs, c'est que en conférence de presse 4 heures avant, il a un peu minimisé les informations d'accrochage en disant que c'était des informations inexistantes, juste des consignes de coach à un joueur, rien de particulier, et que 4 heures plus tard, on apprend que Samba n'est pas dans le groupe pour une sanction sportive. Donc on verra la justification d'Abibay, elle est peut-être aussi dans un motif de performance, parce que Samba est moins performant, mais ça tiendrait seulement si d'autres joueurs étaient écartés, parce qu'il n'y a pas que Samba qui n'est pas bon du côté de Rennes. Donc ça ressemble un peu à la crise du mois d'octobre, exactement. Jérôme, où Abibay, un peu dos au mur, avait écarté à l'époque Seko Fofana et Ludovic Blas, des choix forts qui ensuite, alors c'est pas ça qui avait tout déclenché, mais ça avait porté ses fruits avec les Rennais qui avaient redressé la barre. Bref, c'est très compliqué pour Abibay. Il y a Lens, il y a Paris, voilà les deux prochains matchs. Abibay, il essaye d'être très calme, il le dit, Rennes est 6e, il n'y a pas péril en la demeure, mais les signaux sont pas bons, et attention, il ne faudrait pas que le match de Rennes soit un non-match comme les matchs à Monaco et à Marseille, sinon ça pourrait tanguer sévère.
Est-ce qu'Abibay retombe dans ses travers, Jérôme?
Mais c'est quoi ces travers?
C'est la
crise de novembre quand les résultats n'allaient pas, d'octobre, pendant la trêve internationale, on se souvient.
On
reprochait surtout à Samba, et on avait sorti beaucoup d'infos du vestiaire avec des joueurs qui étaient pour certains livrés à eux-mêmes, c'était les responsables. Et en fait, moi, j'ai toujours du mal avec les managers ou les entraîneurs comme ça qui se mettent un petit peu en dehors du groupe des joueurs quand les résultats sont pas là. Donc, quand les résultats sont là, c'est très facile, si tu veux, de créer une ambiance géniale dans le club. Ben oui, t'es sur une dynamique positive, on l'a connu, les victoires, ça... quelques réflexions, tu les laisses de côté, tu fais même pas attention, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, parce que tout va bien, sa gestion elle est parfaite, l'équipe type il l'avait, hein, et Xavier il peut confirmer, c'est souvent les mêmes qui jouaient avec des choix payants, il faut le reconnaître.
C'est Seko Fofana est parti à Porto d'ailleurs.
Donc, voilà, non mais il a dégagé les joueurs qu'il voulait pas. Ça c'est son management et ça se respecte, et moi je suis personne pour lui dire c'est pas bien ce que t'as fait, nanana. Par contre, en effet, quand les résultats ils fuient un petit peu et que t'enchaînes des mauvais résultats là, et ce qui est le cas depuis 3 matchs, et peut-être que ça va pas s'arrêter tout de suite.
Surtout avec le calendrier qui arrive, Jérôme.
Ouais, mais en plus t'as le calendrier, et puis tout de suite, il y a des boucs émissaires. Il y a des réflexions qu'il accepte pas. Il y a des ceci. Bien sûr, peut-être que Brice Samba, il a pas à réagir comme ça sur le terrain à Marseille, et que lui, il s'est senti.
Ils prennent le deuxième but, et Bay lui reproche d'avoir dégagé trop vite le ballon, et lui, il répond à son entraîneur sous les yeux de tout le monde.
Oui, mais de toute façon, on l'a dit, quand tu donnes des infos au mois d'octobre, que en effet l'entente elle est pas parfaite, c'est pas parce que tu as gagné quelques matchs que d'un seul coup les mecs c'est les meilleurs amis du monde. Donc moi souvent j'ai posé je t'ai posé la question Xavier, est-ce qu'il a changé son management, est-ce qu'il a changé son discours, est-ce qu'il est moins derrière les joueurs à leur dire t'as pas fait ton lacet, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, tu vois, les laisser c'est des adultes, des jeunes adultes, certains sont pères de famille. Tu vois ce que je veux dire, ils n'ont pas besoin d'avoir un coach qui leur dit quoi faire sur l'aménagement d'une séance ou quoi que ce soit, qu'ils soient déjà concentrés sur la séance. Et ça, je pense que ça a déplu beaucoup. Je pense honnêtement que les résultats les positifs ont masqué tout ça, mais que quand tu as des résultats négatifs, bah c'est problématique. Et son management, il ne va pas se réinventer en l'espace de quelques mois. Donc moi, je crains en effet que le mal soit profond avec certains et que ça puisse pas s'arranger.
Après, moi, je veux bien qu'on le critique et on peut aussi se faire l'avocat.
Attention, de... je critique lui et les joueurs.
Non, mais ce que je veux dire,
y a pas que lui.
Vous avez été dans un vestiaire tous les trois. Quand tu recadres ton entraîneur publiquement devant tout le monde, est-ce que l'entraîneur a pas raison aussi de te sanctionner ?
Tu sais, mais quand tu le fais, tu sais que ça peut donner ça. Donc en gros, il va assumer. Je pense que Brice Samba aujourd'hui, il se dit pas. Oui, qu'est-ce qui m'arrive ?
La question, c'est est-ce que Bay aurait dû laisser passer ça ou est-ce qu'il doit montrer son autorité ?
Communiquer du club. On est à une époque où les entraîneurs vivent, ils sont en première ligne et qui prennent des scuds en permanence. Et il n'y a jamais, là en l'occurrence, t'as soulevé quand même quelque chose qui pour moi est très important. C'est quand un joueur prend à partie son entraîneur devant tout le monde. Donc, il ne fait plus attention justement à la hiérarchie en fait qui s'impose et le respect qui doit s'imposer, même si t'es pas d'accord avec ton entraîneur, tu dois attendre justement d'être en vase clos pour lui expliquer ton ressenti. Tu peux avoir aussi des prises de tête avec ton entraîneur, mais le faire comme ça de façon publique devant tout le monde, ça veut dire que tu t'en fous de savoir que c'est ton entraîneur. C'est une chose. Après, j'exonère pas Habib Bey sur sa façon de manager et de communiquer avec ses joueurs. Il n'empêche que, en sachant tout ça. Rien n'empêche le club aussi de venir au soutien de son entraîneur en disant qu'il y a un règlement. On t'impose un règlement intérieur aussi en termes de comportement et de relationnel. Tu dois respecter ces choses-là. Donc, si, imagine demain, un joueur s'en prend également à son employeur. Tu fais quoi?
Non. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, Xavier. Ouais,
le problème avec Bey aussi, c'est qu'au mois de novembre, le DG Pouille, il voulait le virer. C'est le proprio qui l'a sauvé.
Oui, en plus.
Tu vois, donc là, je pense que dans le vestiaire, il y a une petite lutte, tu vois.
Xavier? C'est des infos, des bruits qu'on a, ouais?
Oui, tout à fait. En tout cas, il y avait une vraie réflexion de la part de la direction sur le fait que peut-être il fallait un électrochoc et que l'entraîneur arrête. Après, il y a eu la discussion et le problème de Rennes,
c'est à cause de quoi, les gars? C'est à cause de sa façon de se comporter, son management?
Non, c'était aussi les résultats. C'était un tout. C'était les résultats, évidemment. Avant tout, c'était les résultats.
Et après, je pense que le recrutement aussi.
Oui, mais le recrutement, il a été fait. Il y a eu les joueurs qu'il voulait, donc pour le projet de jeu qu'il voulait. Et on sait qu'à Rennes, le problème, c'est qu'il y a qu'une seule personne ou deux qui appuient sur le bouton. C'est la famille Pinot. Que les dirigeants veulent quelque chose. Si le propriétaire n'est pas d'accord, ça ne se passe pas. Effectivement, le propriétaire a confirmé à Bibay. Après, moi, je pense que le soutien, le communiqué du club dont tu parlais, Manu, il y a Loïc Désiré qui est venu après le match à Marseille où il a plutôt attaqué les joueurs en disant que des joueurs n'étaient pas à leur niveau et qu'il fallait que tout le monde en gros se réveille. Quand il a écarté Fofana et Blas au mois d'octobre, il a eu le soutien de la direction derrière. Donc je pense que la direction est alignée sur Habib Bey sur ce coup-là, mais Habib Bey prend un risque et ce qui est surtout reproché, c'est pas forcément son management actuellement, c'est surtout que son équipe est devenue prévisible et qu'il ne se remet pas forcément en question pour essayer de jouer différemment.
C'est un jeune entraîneur aussi, faut pas l'oublier. Donc moi ce que je regrette, donc encore une fois, je suis pas là pour exonérer, je suis pas là avocat d'Habib Bey. C'est que quand un entraîneur se fait attaquer alors que ça fait des semaines qu'il a redressé une situation qui était très mal embarquée. Rappelez-vous, au mois de septembre, il y avait cette fameuse réunion entre les joueurs. Déjà, on se demandait si Bey n'allait pas être viré dans les jours qui suivaient, en octobre. Donc là, on est au mois de février. Et il a fallu justement ce fiasco contre Marseille. Et ce qui s'est passé pendant ce coup, on remet tout en question. Donc moi, je veux bien, mais pendant des semaines.
Il y a eu Monaco aussi 4-0 à Ligue 2.
Oui, mais malgré tout, ils sont pas très loin du podium.
Bien sûr, sur le début de saison qu'ils font et le classement.
Et quand
actuel,
tu vois les joueurs importants, les joueurs importants qui sont partis pendant le mercato hivernal, qui ont été vendus. Donc moi, je veux bien. J'entends tout ce que vous dites, mais quelque part, je me dis. Je le trouve bien isolé, quoi, au club.
Et là où il fait une erreur, c'est une erreur de com. Parce qu'il dit en com devant les journalistes et Xavier y était. Bah, il s'est rien passé. Vous avez extrapolé des propos qui ont été rapportés.
On est dans une époque, Benoît.
Et juste après, on apprend que Brice Samba ne fait pas le déplacement.
Il s'est passé, on l'a tous vu. Ce qui s'est passé au stade.
Assume-le alors, pourquoi tu le dis pas en conférence?
Moi, j'ai une impression que, ouais, même les cadres, il y a des cadres qui ne sont pas des.
Non, mais les gars.
Si Brice Samba, comme ça, il répond. Comme ça, aux yeux de tout le monde, c'est que déjà, il y a un problème, et c'est le truc, il est profond.
Il sait qu'il est isolé aussi, il sait que, il est isolé, qu'il se fait attaquer. Donc, on est d'accord,
mais il est obligé de prendre une décision comme ça, parce qu'il sait qu'il peut pourrir un vestiaire.
Exactement, il perd son autorité.
Mais les gars, de toute façon, il a voulu, en début de saison, le mettre dehors, le faire partir, Samba.
On est des anciens joueurs.
Il voulait le mettre en concurrence, pour être exact. Pas forcément le faire partir, mais le mettre en concurrence avec un vrai gardien qui pourrait le challenger.
Alors, Xavier, ces infos, elles sont bonnes, c'est vrai. Mais s'il avait pu partir,
Benoît, il l'aurait laissé. C'est un constat que je fais quand même. Après, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y a pas de souci.
Mais moi, c'est pas d'accord.
Mais
pas
en
d'accord.
tant qu'ancien joueur, et non, on est des anciens joueurs également.
Oui, on a joué un peu. Ouais,
ouais, je me même dis, si j'ai une sélection, est-ce que c'est l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui? Je trouve que les entraîneurs sont de plus en plus isolés au sein même d'un club, quoi, dans leurs prérogatives, dans leur pouvoir, dans leur champ d'action.
Tunès qui est encore en activité.
Mais que je regarde Maresca, je regarde Amorim, je regarde beaucoup de choses. Je me dis, c'est quand même plus personne n'est à l'abri en fait.
Ouais, c'est pas faux.
Younes, est-ce que c'est plus dur qu'avant?
Parce que c'est plus dur. C'est parce que des fois maintenant les entraîneurs veulent tout commander et donc le DG.
Ils commandent rien aujourd'hui, Younes.
Ben c'est ça. Ouais, mais en fait c'est comme le travail qu'ils font à Paris, tu vois, l'entraîneur et le DG, tu vois, ils se parlent, tu vois, ils sont dans le même sens. Mais des fois, quand ça tire pas dans le même sens, que il y a une politique du DG et l'entraîneur a une autre vision, eh ben c'est normal que des fois ça marche pas. Et c'est en ce moment c'est plus le cas et comme ça, je pense.
La question d'après, avant d'accueillir Jérôme, supporter du Red Star, qui a donc connu Habib Bey et qui veut en parler.
Xavier, il peut nous parler aussi de la multipropriété avec le triple 7, hein, tu vois.
Ouais. Xavier, quelles pourraient être les conséquences d'une très mauvaise série qui pourrait se prolonger si jamais tu perds à Lens et qu'ensuite tu perds face au Paris Saint-Germain? Est-ce que tu penses que Habib Bey est plus en danger aujourd'hui qu'il ne l'était au mois d'octobre?
J'aurais tendance à penser que oui. Alors moi, c'est surtout, enfin, ce qu'on a pu me dire, hein, et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur RMC Sport, c'est que on va surtout scruter du côté du club la réaction du groupe, parce que Rennes reste vraiment sur deux non-matchs, hein, des matchs catastrophiques à Monaco, et contrairement à Habib Bey qui manque de lucidité ou en tout cas qui a raté sa com sur ce coup-là, le match à Marseille est catastrophique, a été très mal vécu par le club, parce que Rennes n'a absolument pas essayé de bousculer Marseille, qui en plus n'a pas fait un grand match. Alors, Habib Bey, lui, a plutôt dit que Marseille avait été bon et que c'était une grande équipe. Donc, il va falloir vraiment que le groupe réagisse et montre qu'un grand match, je ne dis pas forcément faire un résultat à Lens, mais qu'il montre que Bey a du poids encore sur cette équipe et que le groupe s'est remobilisé. Après, ce sera Paris. On ne va pas reprocher à Bey s'il prend deux défaites ou un nul et une défaite contre Lens et Paris. On ne va pas lui dire c'est la défaite de trop. Voilà, exactement. Oui. Tiens, ce sera ça qui fera regarder. Mais ça, c'était aussi avant qu'il écarte.
Ce sera en caisse et libre.
Il a raison, Maxime. Bah, il a raison. Oui. On sait bien que.
On connaît la proximité entre Aize et Pouille, notamment.
Aize et Pouille, j'ai vécu.
Et Djibo se réveille aussi.
Voilà. Disons que si Habib Bey devait.
Ça a bien marché.
Si Habib Bey devait sauter dans les jours à venir, il y a un remplaçant tout désigné qui est libre. Bon. Et ça, Jérôme, ça peut évidemment changer la donne. C'était pas le cas en octobre.
Alors, pas Roten, mais Jérôme au 32-16.
T'as un beau prénom.
Voilà. Salut Jérôme. Salut
Jérôme. Très beau prénom. Ouais. Bonsoir à tous, très beau prénom. Bonsoir. Alors j'ai pas reconnu toutes les voix. Par contre, je corrobore pas mal de choses qui ont été dites. J'espère que vous m'entendez bien.
Oui,
je suis
bien,
sur un parking, donc c'est pas terrible.
Ouais.
Moi, alors je suis Bey depuis Canal+, évidemment, et puis je sais pas si j'ai le droit de dire ça. TF1 et France 2, si faut mettre la. Mais je suis surtout depuis le Red Star, et en fait moi je trouve que Habib Bey c'est un intellectuel du football. Le mec comprend le football, le mec vit le football. On le sent dans ses interventions, on le sent dans tout. Maintenant, un mec comme ça, est-ce qu'il a sa place dans un vestiaire au quotidien? Ça, je me le demande. C'est-à-dire, il a des exigences, il a des points de vue, et je suis pas sûr, même s'il est jeune, que tout ça soit assimilé par des jeunes pros, par
c'est-à-dire son relationnel, le côté humain, c'est quoi?
Le côté professoral.
Le côté humain,
quoi.
Déjà, et puis d'autres prérogatives, c'est-à-dire le côté actionnaire, le côté argent, le côté objectif, etc. Donc ça, c'est le premier point de vue. Deuxième point de vue, il y a quand même moi, ce qui m'embête dans tout ce que vous avez dit quelque part, c'est que il vit le football, il sent le football, mais les objectifs ils sont là quand même. Je veux dire, on lui a pas, on lui dit pas, tu nous dois la Ligue des Champions.
Il est qualifié en Coupe d'Europe, hein, c'est ce qu'on lui a fixé
voilà,
comme objectif.
On lui demande Coupe d'Europe. Là, si je me trompe pas, alors, je suis un peu éloigné.
Il est toujours dans les clous, mais
ben, il est dans les clous, quoi. Donc voilà, donc ok, Samba, il, voilà. Après le relationnel, etc., ça m'embête, c'est sûr, surtout avec un mec comme Samba. Mais au final, est-ce qu'il est pas dans les clous, quoi?
Donc tu penses comme moi en fait, hein, parce que je me dis.
Je pense comme beaucoup de monde qui sont intervenus ce soir, ouais, totalement, ouais. Ouais.
En plus, je rajouterais que je veux pas jeter un pavé aussi sur les nouvelles générations, mais je connais plein d'entraîneurs qui me disent c'est très très compliqué maintenant d'entraîner avec ces nouvelles générations qui aujourd'hui ont le pouvoir, les joueurs, à travers les agents, et on voit bien, notamment la multipropriété. Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en cause, et ça revient sur ce que je viens de dire, c'est que les entraîneurs ont de moins en moins de pouvoir au sein d'investir.
C'est le sujet du soir.
Après, moi, je vous donne une info comme ça, Xavier, tu l'as. Vu qu'il a pas voulu la donner à Bibey, donc c'est bien une sanction disciplinaire.
Okay.
Voilà, c'est pas un choix sur les performances ou quoi que ce soit, c'est une sanction disciplinaire.
C'est la version qui a été donnée à Brissamba. Alors on lui a dit tu es sanctionné par rapport à ton attitude mardi.
Voilà, exactement.
Ok. Donc info JR25.
Bravo, ce que je trouve plus cohérent. Ce que je trouve plus cohérent parce que ça veut dire que Samba est puni en gros de son attitude. Bah, donc c'est un acte d'autorité, non pas des performances, parce qu'il n'y a pas que Samba qui est pas bon.
Non, mais c'est
matchs,
pour ça. Mais
ça n'aurait pas été cohérent.
Ça, tu le disais, Xavier, on s'en doutait dans tous les cas. Mais c'est bien d'avoir la confiance. Bon. Donc comme ça, au moins, vous pouvez lui poser la question.
C'est toujours compliqué quand tu décides de sanctionner un joueur.
Ah bah oui.
Parce qu'il peut y avoir des conséquences derrière au niveau du vestiaire.
Dans un instant,
on est là.
Bravo Jérôme, encore les infos JR25. On parle de Lille, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le LOSC?
On vous en donnera plein lundi après le week-end cette affaire. Oh là là.
Et on parlera.
Bon, Xavier, on va te rappeler.
Également de Nice. Est-ce que Claude Puel, c'est une grande réussite à Nice? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h29 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit l'émission, c'est la dernière demi-heure. Après, je sais qu'on va vous manquer tout le week-end, mais vous inquiétez pas, on sera de retour lundi avec une grande semaine avec notre opération Avis de recherche.
Ah ouais.
On est avec Manu Petit, avec Younes Belhanda, avec Benoît Boutron et surtout avec tous nos correspondants qui nous lancent cette 21e journée de championnat de Ligue 1.
Dans 30 minutes sur RMC, l'After Live et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, hein, qui sont à suivre sur RMC. On sera en direct de Milan du stade San Siro pour cette cérémonie d'ouverture. Ne manquez pas ce grand moment. Son présent ce soir avec nous en tant que correspondant, donc Jean Baumel, Max Tilliette, Xavier Grimaud. Parlons donc de l'OGC Nice avec toi, Maxime.
L'effet Puel.
Eh oui, l'effet Puel à Nice, ça fait sourire et Jérôme.
Bon,
mais en tout cas, Nice va un peu mieux qu'il y a quelques semaines. Les Niçois ont repris des couleurs. Ils se sont même qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Il y a un grand match dimanche à 15h. C'est le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco. Ça paraît dingue de se dire que la saison dernière, c'était le 3e face au 4e. C'est plus le cas cette saison. Ouais. C'est le 10e contre le 13e. Est-ce que tu peux nous expliquer la méthode Puel depuis qu'il est arrivé comme ça à Nice? Qu'est-ce qu'il a remis en ordre exactement là?
Bon, on en avait un peu parlé, mais très vite, il avait dit qu'il était très agréablement surpris par la qualité de son groupe. Donc, un zeste de calinothérapie, j'ai envie de dire, juste après un Francaise qui, lui, avait été plus rentre-dedans sur ses dernières sorties médiatiques. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a ouvert son groupe aux jeunes. Alors, bien aidé forcément par son adjoint Julien Sablé, qui était directeur du centre de formation depuis plusieurs mois. Mais il y a 6 joueurs qui ont été lancés en pro par Puel depuis son retour. Donc, il y a seulement en 8 matchs, déjà 6 jeunes qui ont découvert le monde professionnel. Mansunga, Everton, Bernardo, Boudache. Alors ça a relancé totalement la concurrence puisque tout le monde a sa chance, comme chez les gardiens, hein, où Dupé est resté titulaire en Ligue 1 avec Diouf qui se contente des coupes depuis qu'il est revenu de la CAN remportée avec le Sénégal. Et puis tactiquement, il n'a pas vacillé, 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ouahi qui s'est installé en pointe, 3 buts, une passe d'ailleurs pour lui en 6 matchs et un bel impact, un vrai impact dans le jeu, dans les appels, dans le jeu de haut but également. Donc pour l'instant, voilà, Puel a remis, c'est pas la révolution non plus, mais Puel a remis en ordre de match, en ordre de marche l'OGC Nice. Il est sous contrat jusqu'en fin de saison seulement.
Ouais.
La question lui a été posée. Il se projette pas encore sur la suite. C'est pas d'actualité. Mais voilà, en 8 matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 2 qualifications en Tour de France face à Nantes et Montpellier. Mais au-delà d'un bilan comptable, c'est surtout, voilà, une sérénité retrouvée dans ce club et aussi dans le vestiaire.
Est-ce que c'est déjà une réussite, Puel, à Nice, Jérôme, alors?
Bon, c'est trop tôt pour dire que c'est une réussite. Max, il vient de rappeler les stats. C'est équilibré. Et après, il faut voir qui ils ont battu et comment ils ont battu et le contenu. Non, mais attention. Là, il parlait de sérénité. Là, oui. En effet, Claude, avec son expérience, il a amené cette sérénité et c'était pas gagné parce que franchement, ils étaient dans un état, ce groupe. Je pense qu'il a ramené du calme dans le club, même avec les supporters, et c'était important que ce groupe se rapproche un petit peu, se rabiboche un petit peu avec ses joueurs. C'est pas gagné encore, hein, attention, mais on sent quand même beaucoup moins de tension qu'il y avait il y a quelques semaines. Après, franchement, dans le jeu, me dites pas que Claude, il a pu révolutionner quelque chose.
Après, il a ramené de l'orgueil quand même, parce que tu vois, il joue contre Montpellier, ils sont menés 2-0, ils reviennent 3-2.
Ça fait deux matchs.
Le caractère, c'est ça. Et il y a deux matchs où ils sont menés contre Brest, c'est vrai aussi, que c'est pareil, ils reviennent à 2-2. Vite, hein.
C'est vrai.
Et ben voilà, à une certaine époque, au bout d'un 0-2-0, tu dis c'est fini. C'était le match fini. Est plié.
Oui.
C'était fini. Après, c'est pas flamboyant, tu vois, en Ligue 1, c'est victoire de nul, 3 défaites. Donc, au niveau comptable.
C'est deux matchs
c'est
de suite que tu mets les deux buts et que tu perds pas. C'est pas
anecdotique. Ouais, tu perds. C'est ça, ce regain. Tu vois, cet orgueil et cette grinta qu'on connaît de Puguel.
Puis donc de Nice aussi.
Ça m'étonne pas de lui.
L'identité de Nice aussi, c'est ça. Quoi.
Exactement. Mais en plus, il a les joueurs pour. C'est des très bons joueurs. Hein. Il y a des très bons joueurs de qualité. Franchement, il y a des bons joueurs. C'est l'orgueil et cette grinta.
Disons qu'ils ont un bon matelas par rapport aux premiers
bons joueurs. Younes,
ce qui leur permet. Mais connaissant Puel, de ce que j'ai entendu, je n'ai pas eu comme entraîneur.
Vas-y, allez.
Non, mais pas des très bons joueurs.
Ali Chaud.
Ali Chaud.
Il y en a Klose.
Ali Chaud, je grimpe au rideau. C'est sûr.
Ndombele, ouais. Klose, c'est très bon joueur.
Oui, mais sauf que
le management, c'est des très bons joueurs.
Ndombele et Klose, à leur meilleur niveau, il n'y a pas de problème. Sauf que leur meilleur niveau, il n'existe plus depuis des mois.
Après, Klose revient bien.
Après, des fois, ça dépend d'un entraîneur. Des fois, il y a le déclic.
Attends, Klose revient bien, tu m'as dit. Alors, attends, on est au mois de février. Donc, je pense que fin mars, il va disparaître. Comment il commence à faire beau.
On connaît le football, Jérôme.
Il va falloir qu'il fasse des photos sur Insta. Et puis après
là, c'est carton jaune, Jérôme Rotten.
Mais c'est pas carton jaune, c'est la vérité. C'est une gangrène, ce mec, dans un vestiaire. Vous avez pas compris, pas parce qu'il a enchaîné 3-4 bons matchs. T'imagines l'attitude qu'il a eu sur les premiers mois.
On parle footballistiquement, Jérôme.
Non, mais d'accord.
C'est un très bon joueur.
Oui, sauf que le très bon joueur donc, sur le début, sur les 6 premiers mois.
Il a peut-être le bon coach pour le remettre d'aplomb.
Ouais.
C'est vrai que Franquès, c'était pas le bon coach. C'était pas son papa, Franquès.
Et ben justement, est-ce que c'est pas plus dur comme ça de dire un joueur avec qui t'as une relation
particulière? Ces joueurs-là, ils l'ont fait à l'envers l'année dernière à Marseille. Ils l'ont fait à l'envers.
Il y a eu problème dans le vestiaire à Lens. Tu vois,
quand tu quittes le Nord, t'es pas bien, c'est ça le truc.
D'accord, mais à Marseille, c'est comment c'était?
Non, à Marseille, c'est d'accord. Mal fini, ça, c'est sûr.
À Nice, ça s'est bien fini.
Ah bah, c'est pas fini.
Non, mais Benoît, je veux bien, même si tu t'entends bien avec Klose, la vérité, c'est que c'est pas un bon mec de ce côté-là. Il a fait trop de conneries.
Ça, c'est un peu dur.
Ouais.
Moi, je veux bien parler du footballeur.
Moi, je parle footballistiquement. Moi, je m'en fous de ce qu'il fait à droite, à gauche.
Mais attention.
Mais footballistiquement, je sais que c'est un très bon joueur.
Il t'apporte. C'est pas un bon mec dans un vestiaire. Pour parler de football, d'ambiance, de vestiaire et de conscience professionnelle. Voilà. Ouais. Après, dans la vie privée, bien sûr, je vais pas aller le juger, je le connais pas. Mais dans le vestiaire, pour moi, il n'a pas la conscience professionnelle d'un joueur de très haut niveau.
Non, mais
voilà,
c'est pour ça que, et ça rentre dans le débat d'aujourd'hui, c'est est-ce que Puel, c'est le bon mec comme ça pour relancer ses joueurs?
Déjà, le simple fait qu'il ait fait monter pas mal de jeunes, parce que c'est ça aussi qu'on le reconnaît, hein, Claude Puel, partout où il est allé, il a toujours essayé de promouvoir le centre de formation. Chose qui est quand même un secret national du côté de Nice. C'est un petit peu le point commun avec l'Olympique de Marseille. C'est quand la dernière fois ils ont sorti des joueurs du centre de formation, quoi? Combien de joueurs ils ont sorti depuis 10 ans? On les compte presque sur les doigts d'une main, quoi, tu vois.
Ouais, là, Max, à part Malanxar, j'ai pas
oui, c'est comme
ça. Non, là, il y a Antoine Mendy qui a marqué.
Il y a
le petit Boudage qui a marqué en Coupe de France et qui montre des choses intéressantes.
Donc, Claude Puel.
Ils ont de l'espoir.
Ouais, il promeut souvent le centre de formation. Donc, ça redonne aussi un élan, quoi, tu vois. Il y avait quelque chose de cassé aussi du côté de l'OGC Nice entre le centre de formation et l'équipe 1. Après, les résultats font que tu changes une dynamique. Je pense, moi, les retours que j'ai également, des indiscrétions du côté de l'OGC Nice, c'est que les joueurs prennent plus de plaisir dans les séances d'entraînement, Alors oui, que c'est sûr. Il n'était pas pointé du doigt, Franquès, pour ça. Je pense que dans son relationnel, dans sa communication, ouais, ça a plombé beaucoup de choses.
Oui, il a lâché. Oui,
après, de toute façon, après, les résultats font que si tu lâches à un moment donné, tu vois, quand ça fonctionne pas.
Non, mais
des fois, ça lâche. Tu vois,
on est d'accord.
Pas le bon discours à un moment donné.
On est d'accord que le choc.
On va pas dire que Franquès c'était un mauvais entraîneur.
Non, 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 les deux, moi, mais pour moi, c'est des potes.
Mais Younes, t'as raison. Et Manu aussi. On dit pas que Franquès c'est un tocard. On dit juste que sur les 6 derniers mois, mais comme Klaus, quand vous me dites que c'est un bon joueur, mais il n'y a pas de problème. Ce qu'il a fait avant, mais ce qu'ils ont fait, les deux, et je mets les deux dans le même sac. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ces deux-là. Mais Franquès, Klaus et d'autres, pendant un an, ce qu'ils ont fait à l'OGC Nice, excuse-moi, c'est rien de bon, en fait. Donc, c'est devenu un entraîneur qui a lâché et qui est devenu un mauvais entraîneur.
Allez.
La preuve, c'est les résultats et ce qu'il a fait. Et Klaus est devenu un mauvais joueur. Après,
mais la quatrième place l'an dernier semble miraculeuse, en fait, maintenant.
Mais miraculeuse.
Allez, faut qu'on parle de Lille, miraculeux, les gars, avec Jean Baumel, parce que c'est Lille qui ouvre cette 21e journée ce soir à Metz.
On va pas de choses positives, quand même.
20h45. Metz est dernier, Lille est cinquième, mais il y a 4 défaites d'affilée pour Lille en Ligue 1, et surtout il y a cette espèce de climat pesant. On a mal digéré le mercato d'hiver et on sent des relations un peu tendues entre Bruno Genesio et Olivier Létan, Dubo.
Bah écoute, ça remonte même, tu sais, c'est l'année 2026 qui est mauvaise, hein. Ils se sont mis dans le rouge direct, Olivier Létan et Bruno Genesio, avec ce match contre Rennes et ce carton rouge qu'ils ont contesté auprès de Monsieur Vatelier. Rappelez-vous, derrière, bah, sanction pour Olivier Létan, suspendu de toute fonction jusqu'au 31 mars. Bruno Genesio a pris un match de suspension, les résultats ont continué à être mauvais avec des défaites au soir de Vigo avec une nouvelle défaite, Genesio, nous on a les infos, on maintient qu'il demande à partir à Olivier Létan, chose qu'il refuse, et derrière bah, il y a encore une défaite contre Lyon, il y a eu contre en coupe, donc la claque contre Strasbourg à domicile avec 4 buts encaissés, un petit but marqué à la fin, donc c'est vrai que bah, on sent que c'est pas très serein du côté de Lille. Au niveau du mercato, bah, on pensait sincèrement avoir un 9 parce que Igaman est forfait jusqu'au l'année prochaine, hein, les croisés. Donc Olivier Giroud qui joue beaucoup, bah non, on va mettre Fernandez Pardo pour lui filer un coup de main entre guillemets, pour le faire souffler. Et on a pris donc un jeune Toulousain, Noah Djouma, Gaëtan Perrin. Et hier en conférence de presse, on a senti en Olivier Létan un petit peu résigné, mais surtout qui a pas voulu aborder la question de la prolongation de contrat de Bruno Genesio, parce que ça se terminera en juin et il y a de grandes chances que ça n'aille pas plus loin. Il a plutôt esquivé la question en parlant de la fin de saison.
Je pense qu'aujourd'hui, le moment, il nous reste trois mois et demi tous ensemble, et le mot d'ordre, c'est ne pas penser au cas individuel aujourd'hui. On doit penser à une seule chose, au LOSC. Je serai le premier responsable si on y arrive, si on n'y arrive pas, comme c'est le cas depuis 5 ans maintenant. Donc voilà, on a un groupe qui a des caractéristiques, des qualités. Moi, je crois beaucoup, beaucoup dans ce groupe, et on a besoin de tout le monde. Ensemble, unis, solidaires.
Ouais, Lille était obligé de terminer européen. Alors, obligé économiquement, ça serait important. On sait que l'objectif, c'était d'être en Ligue des Champions. Il y a un troublion qui s'appelle le voisin Racing Club de Lens, qui n'était pas prévu d'être certainement à la fin, au moins dans le top 4, parce que Lille a déjà 7 points de retard sur Lyon.
Non,
mais même 4e, il y a déjà 7 points de retard sur Lyon.
C'est sûr.
Ce soir, grosse pression, parce que s'il n'y a pas un bon résultat contre Metz, voire défaite, tu sais quand même à 7 défaites en 8 matchs. Et le seul match que tu as gagné, c'est contre Fribourg, avec un pénalty de Giroud à la fin du match.
Est-ce qu'elle vous inquiète, cette équipe?
Donc, devant, il y a un vrai souci. Espérons que Gaëtan Perrin et Noah Djouma apportent un peu un plus. À noter aussi la mauvaise nouvelle pour Ethan Mbappé, qui encore une fois, gravement blessé et qui en a pour plusieurs semaines.
Et on craint de ne plus voir cette saison sous le maillot lillois.
Bon, après, Gaëtan Perrin, c'est un bon joueur.
Oui.
Donc, il va apporter sa technique, sa vision et sa vista, et donc je pense que il va faire du bien dans tous les cas dans le secteur offensif. Je suis inquiet, oui, parce que t'as l'impression que même quand ils font des bons matchs, et c'était le cas à Lyon, parce que franchement contre Lyon,
ça ronronne devant.
Djibo, sur l'ensemble du match, ils font un match, c'est cohérent. Je pensais pas qu'ils pouvaient être à ce niveau-là. Moi, je pensais réellement qu'ils en avaient ras-le-bol aussi de la gestion de Bruno Genesio et du discours de Bruno. Renault, où par moment je le comprends pas aussi, un petit peu comme je pensais de ça à Francaise il y a quelques mois. Là, on est obligé de constater quand même que sur ce match à Lyon, alors si tu regardes le résultat, c'est un mauvais résultat, mais le match, il est vraiment cohérent.
Bah, il a reconnu que c'était vraiment planté dans sa compo avec une défense à 3 contre Strasbourg, ils en prennent 4. Bah, et oui. Il a fait son mea culpa, je pense que les joueurs l'ont vu, et après, c'est plutôt positif de faire ça.
Après, là où c'est, je suis très pessimiste pour Lille, c'est dans le secteur offensif. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau qu'on espérait, et puis surtout ils ont
Correa notamment.
Ah ouais, non mais ils ont pas
Rolme, de Rolme, c'est encore un peu tendre.
Ouais. Pour moi les 4-5 prochains matchs qui sont largement à la portée de Lille sont très très importants pour pouvoir jouer des petites finales contre leurs principaux concurrents pour la Champions League, en sachant que Paris se déplace là pour le Classico à Paris, que Marseille se déplace à Paris. Dans l'éventualité qu'ils perdent, ça serait quand même une occasion, mais une opportunité incroyable de rater si jamais ils font un bon résultat à Metz. Imagine s'ils gagnent et qu'ils perdent dans l'intervalle. De 7 points, on passe à 4 points.
C'est vrai.
Donc, quelque part, ça relance l'intérêt. Et surtout, il y a ce fameux choc qui se profile derrière. Donc, sur les, je crois que c'est après, dans 5 journées, il me semble, il y a le choc entre Lille et Marseille. Donc, ils doivent avoir en ligne de mire.
Le 22 mars.
Ils ont en ligne de mire. Pour moi, si j'étais à Lille, j'ai en ligne de mire, en fait, Marseille.
Bon. Ouais, c'est vrai.
Pour moi, Lens, ils sont inattaquables. Ils sont trop loin.
Ah, non, mais bien sûr qu'ils sont trop loin. Ils sont à 15 points.
Allez, on remercie les correspondants. Merci, Djibo. Merci, Max. Merci.
Bon week-end, les amis.
Xavier.
Salut. Bon week-end.
Merci. Metz, 20h45, en même temps que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver 2026 à Milan. Dans un instant, le quiz de Roten sans flamme, tous contre Roten.
Les deux là.
Jérôme. Allez, face à Manu et Younes, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h47 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On est même menacé par Manu Petit qui est là. Il veut absolument savoir, avis de recherche, qui a. Et il pensait trouver quelqu'un alors qu'il est complètement à côté de la plaque.
Et lui qui a peur de rien, il veut absolument connaître les noms, quoi.
On est avec Younes Belhanda aussi. Lui est à l'abri. Ça va, Younes, t'es à l'abri.
Pas d'avis de recherche, moi ?
Ah, on pourrait, hein. On pourrait.
Bah, toi, on te recherche déjà au Qatar. On sait pas ce que tu fous au Qatar. Ouais, ils changent de club. Écoute.
C'est trop fort, bon. Ça.
Oui, je sais.
À partir de 20h, l'After Live. Ce soir, c'est Metz-Lille. Et surtout, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Milan. On va vivre ça sur RMC.
Les cérémonies, c'est génial.
Mais tout de suite, c'est le quiz.
RMC. Tous contre Roten.
Avec Louis Jabier, salut Louis.
Salut l'équipe.
Salut Louis. Vont s'affronter ce soir pour 100€ de cartes cadeaux chez Maison Scarlett. Jude et Ludo, Jude Lowe, ils sont là.
Bonsoir tout le monde.
Salut à vous,
Jude. Bonsoir.
Et Jude, c'est ton vrai prénom alors?
Oui, c'est Jude Kael, mais on m'appelle Jude.
Ah d'accord, c'était pour le jeu de mots. Bravo, standard.
Jude, on embrasse Adrien. Comme Jérôme, il s'appelle Jérôme, on ne l'appelle pas en fait.
Jude Kael, tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde? Allez, Judy Kael avec Jérôme. Et donc, Ludo avec le reste du monde. C'est parti, Louis.
On va faire un thème curling, comme c'est le début des...
curling.
Mais non, je rigole.
C'est le truc qu'on frotte, là.
Oui, c'est ça, on frotte.
C'est le truc qu'on frotte.
Ça va être un thème PSGOM. Puisque dimanche...
Ah, j'en ai fait aujourd'hui du curling.
Allez, enchaîne.
Allez, on va reprendre après ça.
Chez moi.
Okay. Allez, on recommence. Le thème du soir, c'est PSGOM, les amis. C'est un super thème. Ce que vous auriez dû dire. Allez, on va commencer avec une question. Qui veut gagner des millions?
Qui veut gagner des millions comme CR7?
C'est votre dernier mot. Je vais commencer avec Emmanuel et Younes. Attention, je le parle.
Arrêtez de m'appeler Emmanuel, putain.
Bah, c'est ton prénom.
On s'en fout. Manu, c'est
okay. Avec Petit et Belhanda. Attention, je parle de toute compétition confondue. Hein. Quel joueur a joué le plus de classiques dans l'histoire? Réponse A, Steve Mandanda. Réponse B, Marquinhos. Réponse C, Marco Verratti. Réponse D, Eric Dimeco.
Déjà Dimeco, tu peux le dire.
Non, c'est pas toi, c'est eux.
Mandanda.
Je dirais Mandanda.
Bonne réponse.
Voilà. Le gardien, la longévité qu'ils ont.
Ça, c'était 3 points, non?
Qu'est-ce que tu racontes?
1-0.
Jérôme, à ton tour.
Allez, 1-0.
Ben pourquoi?
Toujours, toute compétition confondue, quel joueur a mis le plus de buts dans l'histoire?
Réponse A, Mbappé. Réponse B, Zlatan. Réponse C, Mavanoudian. Réponse D, Carlos Bueno.
Facile.
Easy.
Mamad.
Non, c'est...
Patrice.
C'est Ibra. C'est Mbappé.
Triche pas.
C'est Ibra.
C'est Ibrahimovic.
Mais oui, c'est Ibra.
Mbappé détient le record de buts lors d'un classique en Ligue 1.
Mais là, c'est bravo Louis.
Toute compétition
en Ligue 1.
Bah non, j'ai dit trois fois toute compétition.
Non, t'as dit Ligue 1.
On l'annule.
T'es vraiment
au moins trois fois.
Je suis pas mauvais perdant. Si je perds, il faut que ça soit
le reste.
On enchaîne avec Jude Law. Which player?
Red fire of fucking air. Stanley. For sure.
Quel joueur parisien a marqué contre son camp lors du classique du Trophée des Champions?
Oh, Ramos.
Qui?
Ramos.
Vous répétez la question?
Non, reculer sur le terrain. En défense.
Marquinhos.
Non.
Ah non, l'autre. L'autre à côté. Ah non.
Non, bon, on annule.
Bah, y en a on annule la question.
Il y en a.
C'était pas de chaud.
Bah oui, c'était pas de chaud.
On en reste à 1-0 pour le reste du monde.
Allez, question flash. Quel ancien minot devenu consultant est le plus jeune Olympien à avoir mis un but lors d'un classique?
Bravo, magnifique.
Un partout.
Question Olmeta. Ah,
ouais. Jamais en tes nerfs.
Eh ben, il met le gifle.
Eh ben, tu en mets un crochet du droit.
Tac, tac. Ouvacan. Les deux touches.
Ouvacan. En 2020, Marseille gagne au Parc après 10 ans. Lors d'un match au record de cartons, 12 jaunes, 5 rouges.
Eh ouais, quel bonheur.
Un international argentin de chaque équipe a pris un rouge.
Ah.
Citez-moi les deux.
Alors
Argentin, l'avait dit.
Toi, tu veux tricher, t'écoutes pas la question.
L'avait dit.
En 2020, un Argentin par équipe a pris un rouge.
Pastore.
En 2020
2020.
Ah non, 2020.
Ah, ouais. En 2020.
Un Argentin par équipe, PSGOM. Il y a les Younes là.
Internationaux, les deux.
Ah, Di Maria.
Heinze. Non mais 2020.
Maria, Di Maria.
Non.
Messi.
Non.
Benedetto.
Oui.
Benedetto.
Et Paredes.
Deux. Bravo.
Bravo Jérôme. Dario Benedetto, Leandro Paredes.
Dario Benedetto.
Pour Jérôme.
Allez, une question con.
Ah. RMC.
Qu'est-ce que vous êtes con? Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
Ah bah, moins que toi.
Question con.
On embrasse Eric Dimeco qui se fait opérer de la hanche lundi.
Sérieux?
Force à lui.
Ah bon?
Ah ouais, bah. Ouais.
On l'embrasse. Ouais. Allez, quel joueur marseillais titulaire? Non, pardon.
Oh là là, je me suis trompé.
C'est pas possible.
Excusez-moi, c'est bon. J'avais bon.
Oh là là.
On est toujours sur le même match. Oh, mais... En 2020, quel joueur marseillais titulaire est hyper frileux? Il a tout le temps froid. 2020.
Un joueur marseillais?
Exactement.
Il a tout le temps froid. Hyper
frileux. Sakai.
Bravo, Hiroki Sakai.
Allez, Sakai.
Younes est là. Hein.
Non, il est pas là.
Mais déjà, on m'a enlevé le point de matrice, je sais pas pourquoi.
T'as répondu après.
Il y avait 2-0.
Non, t'as répondu après.
Le score est remis à 0.
Oh là.
C'est rageant.
C'est ballot.
Allez, question petit.
Concentrez-vous. Ah.
J'aime le foot. J'aime le sexe.
J'aime la bouffe, j'aime les voyages, j'aime le sexe. Allez, on y
ça
va.
Ça donne faim tout ça.
Quel joueur
t'as
ayant
faim, quoi?
Allez, on se dépêche.
Quel joueur ayant déjà gagné un classique quasiment à lui tout seul avec
c'est moi.
Ils sont intenables.
Ah, J'ai gagné. Une question con ça ou quoi?
Allez, c'est important pour Julie Kael.
Allez,
il y a un cadeau.
Tenez-vous, il y a un cadeau. Quel joueur ayant déjà gagné un classique quasiment à lui tout seul avait pour habitude de convier des filles dans sa chambre lors des mises en
scène? Ronaldinho.
Younes Belhanda. Vous n'étiez pas le présentateur. C'est Younes qui a pris la victoire.
Mais quoi de
Ludo? Bravo Younes.
Oui, Jérôme.
Restez concentré jusqu'au bout. Bravo Younes.
Toujours.
Et bravo à Ludo qui remporte ce magnifique cadeau.
Tous contre Roten sur RMC avec Maison Scarlett. La marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Merci Louis Gerbier, Manu Petit, Younes Belhanda dans un instant, l'After Live avec notamment cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en direct de San Siro à Milan, Jérôme.
Merci à tous, merci Benoît. On se retrouve lundi pour une magnifique semaine. Soyez au rendez-vous. Notez bien, à partir de 18h tous les jours de la semaine prochaine, de 18h à 20h, Hôtel Sans Flamme, incroyable avec notre opération à vie de recherche. Bisous, bon week-end et à lundi.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.